C'est la deuxième heure de ce Sweet Home Chicago numéro 1208 avec un retour sur le passionnant d'Aqua, Fabrice Bessois, batteur, tourneur, road manager, organisateur de concerts et bien sûr archi passionné de blues. Pour la seconde partie de son interview, avec lui nous évoquerons les rapports qu'entretenait Curtis Salgado avec les protagonistes du mythique film de John Landis, The Blues Brothers. Nous écouterons The Blues Brothers Band au live au House of Blues, mais également Sam Taylor, l'un des deux principaux inspirateurs soul de Fabrice, Lisa Otey en trio avec Fabrice à la batterie, le grand Monster Mike Welch, avec qui il vient d'enregistrer en Californie un album absolument dantesque, l'immense Little Milton, qui avait Bobby Manuel pour guitariste chez Stax, mais aussi quelques projets dont Fabrice a le secret, Stagger Lee avec Arnaud Fradin et Lowland Brothers avec Nico Duportal. Une belle découverte également que ce jeune américain, Sean McDonald, qu'on écoutera en live électrique, puis en duo acoustique avec l'incroyable John Tavius Willis. La première partie de cette interview, diffusée le 7 octobre, est bien sûr disponible sur le Mixcloud. Un grand moment de radio à mettre entre toutes les oreilles. On peut continuer à égrener comme ça des souvenirs avec certains des musiciens que tu as fait jouer, que tu as fait revenir aussi. Alors bien sûr, Sax Gordon, on parle de Monster Mike Welch avec qui tu viens d'enregistrer, on va en parler tout à l'heure.
Ouais, tout à fait.
Alabama Mike, Guy King, ouais. John Nemeth, Dave Traffard, Jimmy Burns, tu l'as dit. Curtis Salgado, c'est marrant parce que tu as évoqué par deux fois les Blues Brothers. En interviewant Curtis Salgado cet été, il m'a rappelé que c'est lui-même qui a inspiré le personnage de John Belushi. Hein.
Sans le savoir.
Sans le savoir.
C'est ça, en fait. Il y a toute une histoire là-dessus où il a bien raconté. On peut trouver ça sur YouTube.
Ouais.
En fait, le frère de John Belushi tient à réparer cette injustice où, en fait, si tu veux, le futur acteur Belushi venait souvent voir Robert Cray et Curtis Salgado parce qu'à l'époque, ils jouaient ensemble. Et il posait plein de questions, quoi. Et Curtis, de rencontrer quelqu'un de passionné, de curieux, il a tout partagé, quoi. Il a tout donné. Et c'est quelques mois plus tard ou quelques années plus tard qu'il a réalisé que ce jeune acteur, c'était John Belushi qui a fait le film Blues Brothers. Et ils n'ont pas mentionné. Quoi, il a rien eu, il a pas eu de droit, et c'est vrai que il a eu un peu mauvaise, tu vois, pendant un moment, et maintenant son frère, le frère de John Belushi, veut lui rendre hommage.
Tu parles de James Belushi, le frère de John.
Excuse-moi, James, voilà. Autant pour moi, t'as raison. Et c'est comme ça que Curtis a pas, sans le savoir, il a énormément inspiré ce personnage-là, en effet, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais si tu veux, ouais, c'est vrai qu'il y a des personnages importants, mais des anecdotes, bien sûr, il y en a pas mal. Mais je tiens à mentionner certains qui sont moins connus, mais qui m'ont donné cette confiance et qui m'ont aidé à apprendre ce métier de tourneur musicien. Il y a eu certains, mais un qui ressort, qui me revient, parce qu'humainement, c'est un certain Sam Taylor. Je sais pas si ça te parle.
Beaucoup
Sam
moins.
Taylor, c'est un guitariste chanteur que j'ai rencontré grâce à Mr. Boogie Woogie, le chanteur pianiste hollandais. Et en fait, il est de la région de New York, mais c'est tout simplement un des grands compositeurs qui a écrit pour beaucoup de monde et qui était guitariste accompagnateur pour Otis Redding, Sam & Dave, parmi d'autres, quoi, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Et un petit black avec une voix, une chanson, mais des chansons soul magnifiques. Sam Taylor, c'est lui et Johnny Rawls qui m'ont mis le pied à l'étrier pour la musique soul, en fait. Et Johnny Rawls, le côté soul sudiste, Ovi Wright, High Records, et Sam Taylor, le côté Otis Redding, Sam and Dave, ouais, Stax, ouais, et tout ça, tu vois.
Oui.
C'est vraiment les deux qui ont démarré. Franchement, à l'époque, moi, je connaissais à peine, mais ils avaient tellement le métier, les deux, qu'en tant que leader, ils m'ont porté, et c'est eux qui m'ont drivé, comment accompagner un couplet, comment accompagner les dynamiques, les nuances. C'est vraiment eux qui m'ont appris, qui m'ont donné les bases de cette musique, on va dire.
Et alors, Fabrice, qu'est-ce que tu penses de l'honneur qui a été fait dans le même ordre d'idée à Bobby Manuel quand il est venu au Porretta Soul Festival, quand il a eu cette récompense offerte par Graziano Uliani pour l'ensemble de son œuvre, tout ce qu'il a fait pour Stax. Bobby Manuel, qui était un inconnu en France et dont la guitare, par contre, est bien connue sur pas mal de tubes. Un garçon un petit peu dans l'ombre, mais en fait, peut-être passé à côté de la brillance des étoiles qui l'a accompagné.
Complètement. Ben moi, tu vois bien, c'est vrai que j'imagine que t'es pareil, à force de creuser, d'observer, de chercher, c'est vrai qu'il y a tellement d'artistes qui ont eu un rôle phare. Et tu vois, je pense à un autre parmi plein d'autres, Don Bryant,
ouais,
qui est le mari d'Anne Peebles.
Ah oui.
Depuis quelques années, on le voit, mais pendant 40 ans, il a écrit des tubes pour High Records, quoi. Et alors que c'est un chanteur hors pair, mais c'est le jour où Anne Peebles est tombée malade, donc sa femme, et Don Bryant, il nous a dit, là, ma femme, elle m'a dit, maintenant, c'est ton tour, c'est à toi. Tu prends la scène, c'est ton tour, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a plein, des gens comme ça, et ouais, c'est vrai que c'était un bel hommage qu'il a rendu à Graziano. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas, et évidemment, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et en effet, il a eu un rôle tellement important, quoi.
Fabrice, il y a des gens avec qui tu enregistres de temps en temps. Je voulais savoir si tu enregistres souvent avec les bluesmen que tu as dans ton écurie, dont tu t'occupes. On peut évoquer, bien sûr, maintenant cet album avec Monster Mike Welch qui est en train de sortir. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres apparitions de Fabrice Bessois sur les albums des artistes qu'on a cités tout à l'heure?
Alors, pas tant que ça, honnêtement.
Ben non, j'ai l'impression.
Hein. Ouais. Il y a eu un creux, tu vois, après l'album sur lequel j'étais avec Maltel Milk.
Oui.
Sweet Soul Blues, je crois que c'est ça. Suite à ça, non, j'étais beaucoup plus sur la scène. Après, j'étais beaucoup aux États-Unis. J'ai participé à des petites sessions pour l'album de Lisa, un album avec Lisa Hauté. In a small town, word gets around about a couple living uptown. Watch what they're doing. See how they dress. Their lives must be a terrible mess. Doesn't he work? He's always at home. Who is she seeing? She's never alone. They're always smiling, but that's just a game. To hide they have a son who's insane. So are they happy or in misery? I know what you're thinking, it's driving me mad. Oh, how I hate this strange mystery. Tell me the truth, I need it so bad. Gossip is fun, take it from me. Pay lots of money or get it for free. In a small town, word gets around. Never let it bring you down. Isn't it funny? Isn't it sad? Imagination is all in your head. Draw your conclusions, it's judgment day. This story won't fade away. Tell all your neighbors, tell all your friends. The rumor may start, but it never ends. I will listen, and that's for sure. Just keep telling me more. I wanna know every sort of detail. I wanna buy it when it's for sale. I wanna see it with my own eyes. I wanna watch beyond its disguise. Gossip is fun, take it from me. Pay lots of money or get it for free. In a small town, word gets around. Never let it bring you down.
fun, take it from me. Pay lots of money or get it for free. In a small town, word gets around. Never let it bring, never let it bring, never let it bring you down.
Mais dernièrement, c'est l'album, le dernier album de Sax Gordon,
ouais,
qu'on a enregistré chez Drew Davis. C'était une belle aventure. Et là, le tout dernier, j'avoue, je m'y attendais pas du tout. Mais pour être honnête, Mike Wedge, on se connaît depuis plus de 18 ans. Je l'ai rencontré grâce à Nick Wayne Toussaint, là aussi. Et on est resté en contact, on s'est suivi. Je l'ai vu là-bas. Quand il venait en Europe, des fois, je l'accompagnais ou je le croisais dans les festivals. Et en tout cas, Mike Wedge, à un moment, on s'est côtoyé, on s'entendait tellement bien que parmi les tournées qui resteront, qui m'ont marqué énormément, c'est la collaboration entre les deux Mike, Mike Ledbetter.
Mike Ledbetter, le regretté Mike Ledbetter, oui.
Ouais, ouais. Et grâce à Mike Wedge, j'ai pu les faire venir et tourner ensemble avec Mick Tokro notamment et Damien Cornelis au clavier, Mig à la basse. Et on a fait pas mal de concerts ensemble en Europe. Et si tu veux, avant cette tournée, Mike Wedge m'a dit, voilà, je vais démarrer ce projet avec un super chanteur qui s'appelle Mike Ledbetter.
Ouais.
On va enregistrer un album. Et il m'avait dit, j'aimerais bien que ce soit toi à la batterie. Et par message, tu vois. Et moi, j'étais là avec grand plaisir, tiens mon courant, je suis prêt à venir. Mais j'étais pas clair, dans le sens, j'étais presque prêt à payer mon billet d'avion, tu vois. Tellement je voulais participer à cette aventure.
D'accord.
Et Mike, qui, voilà, voulait, il a essayé de me dire, voilà, je reviens vers toi. Et en fait, il a anticipé, il fallait se dépêcher. Donc, il est revenu vers moi en me disant, écoute, on a pris un autre batteur sur place parce qu'on n'avait pas les moyens de te faire venir. Et je lui ai dit à Mike, c'est dommage parce que moi, j'étais prêt à payer mon billet d'avion, mais j'aurais dû te le dire avant. Donc, il y avait un quiproquo, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Et à ce moment-là, il m'a dit, écoute, je suis désolé, la prochaine fois qu'il y a une occasion, ça sera toi, quoi. Il a tenu sa parole.
Et c'est le cas, et c'est le cas. Et tu es le seul musicien européen sur le dernier album de Monster Mike Wedge.
Ouais, complètement. Ouais, ça a été. Bon, voilà, pour moi, on se connaît bien avec Mike. Ça me paraissait naturel parce qu'on a beaucoup joué ensemble. Donc, comme il disait, on a une alchimie sur scène et on se connaît très bien maintenant. Donc, il voulait ça sur l'album, que ça se ressent, qu'il y ait un côté live. Et sachant que ça allait être enregistré dans ce fameux studio chez Keith Anderson, Louise Land Studio, et qu'il a une manière d'aborder, de capter la musique dans son studio qui est live, il voulait reproduire ça. Donc, il y a une approche musicale, je comprenais la démarche, et c'est pour ça qu'il tenait à ce que je sois là. Bien sûr, il m'a dit, je connais plein d'autres batteurs sur place, mais je joue pas souvent avec eux, donc ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il tenait que ce soit là, et en effet, ben, moi, quand il m'a appris ça, j'étais plus que touché. Et ben voilà, Keith Anderson, je le connaissais pas, bien sûr de renommée, de réputation, je suivais ce qu'il fait depuis des années. Mais c'est surtout quand Mike Wedge m'a dit 2-3 jours avant qu'on y aille, en fait Keith Anderson, on a préparé les morceaux, on va faire telle session avec tel morceau, premier jour, second jour tel morceau, et troisième jour, on va faire ces morceaux-là avec un autre bassiste, un certain Jerry Jemot.
D'accord.
Et Jerry Jemot, moi on est plusieurs à le suivre, à le connaître parce que. Et là, je me suis dit, c'est un truc de fou, c'est que c'est le bassiste qui a fait la ligne de basse de Three Is Gone, de B.B. King, qui a fait plein d'autres morceaux sur ces sessions-là pour B.B. King, qui a enregistré pour Freddie King, qui a enregistré pour Roberta Flack, pour Nina Simone, mais surtout, parmi la liste est très très longue, mais c'est surtout le bassiste de King Curtis.
D'accord.
Et le bassiste qui a fait tous les albums d'Aretha Franklin, notamment le Live at Fillmore, où t'as le live de King Curtis en première partie, et après t'as le live d'Aretha, où à la fin du concert, c'est le fameux Ray Charles qui vient faire la jam, quoi.
Ah putain, c'est énorme tout ça, ouais, effectivement.
Et partages. Là, c'est lui, en fait, c'est lui. Donc moi, il me dit ça à Mike, je dis, non, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, déjà, c'était d'aller avec Mike enregistrer l'album, c'est quelque chose. D'aller dans ce fameux studio et de côtoyer Keith Anderson, c'est encore énorme. Mais alors là, sachant que le troisième jour, il y avait un tel bassiste qui allait être là, pour moi, c'était fabuleux, quoi. Magique.
Ah oui, effectivement. On partage, on est là de l'autre côté du poste. Je pense que c'est la même chose, Fabrice. Ouais. On partage ces anecdotes avec plaisir et avec gourmandise.
C'est gentil, merci.
Vraiment, j'imagine que tu pourrais nous en raconter comme ça.
Ouais.
Mais pour chacun des musiciens dont tu t'es occupé. It's hidden in the back of my mind, and I don't even know where you're living these days. Don't matter much as long as it's far away. I don't think you recognize my face and the way these tears
they look out of place. There's no way you'd know my voice, and the way I talk, just like I have a choice. Hey there, baby, if you're out there somewhere, I'm stronger than before in case you care.
Moi, j'ai une question par rapport à ces tournées que tu organises, parce que tu n'es pas que batteur ou tourneur, tu es également road manager, puis régisseur, enfin, tu un petit peu de tout dans cette structure Soulshot que tu diriges depuis 8 ans maintenant, cette agence de booking. Fabrice, je voulais savoir quels sont tes critères premiers quand un artiste doit intégrer cette écurie, quand tu dois organiser une tournée pour un artiste pour la première fois. Il faut que tu l'aies vu sur scène absolument, ou des vidéos peuvent suffire. Et puis surtout, qu'est-ce qui compte plus? C'est le facteur musique, le facteur coup de cœur avec le répertoire, toi, ou le côté humain?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, pour répondre vite fait, critère de sélection, c'est clair et net, c'est la musique qui me touche d'abord. Et à travers la musique, de ce que j'entends parler de l'artiste, et voilà, parce que clairement, c'est une petite famille, donc de connaître Mike Way, à travers lui, je connais pas mal de gens, et même si j'ai besoin d'avoir un avis, je leur demande, que ce soit Mike Way, que ce soit Curtis Salgado, que ce soit Sax Gordon, on est vraiment maintenant très amis, donc je peux me permettre de leur demander pas mal de choses. Donc après, il y a comment ça s'est passé la tournée. Évidemment, en tant que tourneur, je côtoie d'autres tourneurs en France. Évidemment, tu te doutes bien qu'avec Tony Agenais, Pascal Delmas, sachant qu'on a exactement le même profil, on se côtoie et on se fait pas la guerre. Et je crois qu'on est intelligent là-dessus. C'est plutôt bien de s'entraider, de se côtoyer. Et donc voilà, tel artiste, ben là, ça s'est bien passé. Tel autre artiste, écoute, je suis dessus, donc je le laisse. Mais c'est vrai que le plan, le paramètre humain, et parce que passer des heures sur la route, c'est quand même important le plan humain. Ouais, pour moi, il est pas négligeable. Et c'est vrai que ces dernières années, on est plusieurs à conclure que c'est pas parce que c'est un bon musicien que ça fait tout et que c'est facile, que ça va être bien de tourner avec lui.
Ouais, effectivement.
Des fois, bon musicien, maintenant je le dis, je le revendique, c'est l'attitude en dehors de la scène aussi qui est très importante.
Ouais.
Comment tu es poli, comment tu es à l'heure, comment tu es reconnaissant, comment tu es prêt à participer, comment tu es prêt à donner un peu de toi pour essayer de faire avancer la machine, quoi. Et tout ça, ça fait que ben ceux qui sont encore là 40 ans après, c'est ceux-là, quoi, en fait, quoi. Et pour moi, ouais, c'est important parce que en effet, je suis en charge de, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai besoin de pouvoir compter sur des musiciens autour de moi et je suis pas là à prendre par la main et d'aller du point A au point B. Non, j'ai plus envie de faire ça. J'ai fait ça au début. J'étais prêt à tout pour ça, pour apprendre, pour le faire. Maintenant, j'estime qu'il faut que tout le monde y participe un peu pour que ça se passe bien.
Ouais, oui, parce que ça, ce que tu décris, c'est en fait c'est le métier de chauffeur. Et puis, ça,
ouais.
D'un point A à un point B. Et le type, avant, il t'explique s'il est 8 jours en Europe, il lui faut 8 fois 500 dollars et pour un bar. Quoi. C'est autre chose.
Sauf que, tu vois, les premières années, tu n'oses pas leur dire quoi que ce soit parce que je manquais de vécu, de légitimité. Et maintenant, sachant comment ça se passe aux États-Unis et de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, franchement, les gars, vous venez en Europe, vous êtes bien traités. Donc, n'en profitez pas trop et ne croyez pas que c'est un dû ou c'est acquis. Il faut aussi que tout le monde y participe et ceux qui sont motivés, qui se donnent et qui mouillent le maillot, comme on dit. Franchement, c'est ceux-là qui vont avancer, qui vont s'en sortir. Parce que malheureusement, des fois, ça arrive que certains pensent qu'on leur a dit tu vas voir l'Europe, c'est l'Eldorado,
oui,
t'as rien à faire.
C'était une légende.
Ils cassent les dents. Parce que ça marche pas comme ça. Et il y a aussi. Moi, je suis content de ce qui se passe depuis quelques années. Là, ça repart depuis le Covid. Mais je reste à ma place. Je suis une petite boîte de booking, quoi, tu vois. Et quand je te parlais de tout à l'heure des festivals, je reste à taille humaine. Je reste, essaye de faire venir des artistes qu'on accompagne avec des musiciens français ou européens, parce que nous, ça nous permet d'avoir une expérience de malade depuis des années. Et eux, ça leur permet de revenir sur le circuit des clubs, des salles et des festivals à taille humaine.
Ouais. Et pas seulement les grosses usines, effectivement, comme il peut y avoir.
Non, alors déjà, je peux pas prétendre parce que je suis pas assez connu et pour d'autres raisons. Et deuxièmement, il y a un esprit qui me parle moins, honnêtement.
Mmh.
Et l'esprit, c'est juste, ben, on parle le même langage, la même musique, la même passion, comme tu disais très bien par rapport à Pourreta. Et je ferme pas les portes, mais à un moment, je m'en rends l'évidence. Tu vois, il y a des critères de sélection pour certains programmateurs de festivals qui ne correspondent pas à ce que je propose. C'est ni leur faute, c'est ni la mienne, mais maintenant, avec les années, j'ai trouvé un créneau en Europe qui parle à des gens, à des programmateurs et à un public, et donc de renouveler mon catalogue tous les 3-4 ans, ouais, il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment des gens, et j'ai plus envie d'essayer de proposer à tout le monde, alors que des fois, ça convient pas parce que ben, je suis français, et parce que des fois, je suis pas black, parce que des fois, tu vois, pour d'autres raisons.
Tu penses que ça compte, ça, pour les programmateurs, pour les directeurs de festival? La couleur de la peau, c'est encore quelque chose qui importe?
C'est un long débat, on peut en parler pendant des heures.
Bah oui, je sais bien.
Pour certains programmateurs, ils entendent de leur public que c'est ça qu'ils réclament.
Ouais, bon.
Moi, tu me demandes mon avis, j'y crois pas du tout à ça. Parce que pour moi, d'être allé là-bas, d'aller dans d'autres pays en Europe, c'est pas du tout ça le critère de sélection. Je pense que si on s'enferme là-dedans, on amplifie le phénomène. Mais je pense que tu peux diversifier la programmation et en avoir pour tous les goûts quelque part. Et les gens, s'il se passe le truc musicalement et sur scène, si les musiciens arrivent à choper les gens, il y aura l'ambiance, les gens seront ravis, quoi, tu vois.
C'est vrai
qu'il y a plein de contre-exemples, quoi.
Ouais, il y a des discours radicaux hein, que véhiculent, par exemple, certains musiciens comme, je pense à Corey Harris, je pense à Mighty Mo Rogers, qui en reviennent à cette fameuse légitimité et à la naissance du blues faite par les Afro-Américains, point barre, quoi, et qui dénient presque, alors c'est pas vraiment le cas, mais dans leur discours, on a l'impression quand même que le droit de jouer le blues, il faut un petit péage quand même, quelque part, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que la plupart du public est passé outre ce genre de réflexion.
Ouais, ouais. Non, complètement, parce que on peut mentionner, allez, entre nous, on s'en fiche, mais voilà, il y a d'autres artistes qui, J'en parle, tu vois, avec quand je suis sur la route avec certains. Et tu vois, il y a énormément de polémiques. Alors, les réseaux sociaux, ça amplifie les polémiques,
oui, mais
on
ça,
est d'accord.
Voilà, ouais, c'est autre chose.
Mais sans mentionner des gens. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça amplifie un phénomène. Et je trouve que l'histoire de la musique afro-américaine, je la connais pas parfaitement. Mais il y a bien quelque chose avec les générations qui sont passées depuis le début du 20e siècle. Tu vois, je te parle de Louis Armstrong dans le milieu de jazz. Je te parle d'autres artistes, d'autres sportifs, d'autres acteurs, etc. Dans la première moitié de ce siècle-là. Ils en ont bavé, ils en ont chié, Sammy Davis Jr., etc. Mais à un moment, c'est des gens qui sont autour de nous, qui les représentent, c'est eux qui vont les faire se respecter, quoi. Et en gros, je pense que si tu t'entoures bien de les bonnes personnes, quelle que soit la couleur de la peau, à un moment, tu vas être respecté, quoi. Mais si tu craches et tu dis que c'est pas bien, tel label, telle maison dit que tel programmateur, ouais, mettre pas en avant, c'est dégueulasse. Là, tu te grilles, enfin, clairement.
Oui, oui, il y a des gens qui n'ont pas peur de ça et qui sont plus radicaux que d'autres, effectivement,
ouais.
Mais il faut pas oublier la part de l'homme non afro-américain dans la reconnaissance du blues
pour un certain
public. Voilà, je pense que peut-être le blues serait passé plus ou moins aux oubliettes, malgré ce qu'en pensent certains. C'est déjà le cas, mais c'est vrai que ça reste une musique de niche.
C'est la musique qui nous fait vivre,
c'est la musique passion, hein, Fabrice. On le sent bien à travers cette interview te concernant, en tout cas. Mais malgré ça, je veux dire, s'il n'y avait pas eu les Blancs pour faire connaître le blues aussi, on ne serait peut-être pas tout à fait là. Enfin, je ne sais pas.
Il y a des exemples, j'en ai plein. Tu vois, là, je pense à ça tout à l'heure quand je te mentionnais les acteurs, les artistes. Parce que sur Netflix, il y a un super documentaire sur un personnage black qui a eu un rôle mais énorme. Il l'appelait le Black Godfather.
Ouais.
Et en fait, de toute la génération de grands chanteurs de soul, rhythm and blues, des boxeurs Mohamed Ali, des grands acteurs, c'est lui qui est toute sa vie, sa mission, c'est de mettre en contact les gens pour les faire avancer dans leur carrière. Et pour moi, là, ce documentaire, mais parmi d'autres, ça me parle en fait, quoi. Le côté constructif et on n'est pas tout seul en fait. Tout seul, t'es rien en fait, quoi. Donc dans ce métier, comme dans plein d'autres métiers, je pense qu'il faut réaliser que tel artiste est arrivé là, c'est pas parce qu'il est black en fait, parce qu'il était entouré, parce qu'il a su construire une carrière, quoi. Tu vois, on parle de Bonamassa, on parle de certains, pourquoi ils sont là. Il faut vraiment se poser les bonnes questions.
Ah, mais tu peux aussi parler de la carrière de B.B. King. Sans Syd Sandberg, il n'en serait pas là où il est arrivé.
Voilà, parce que B.B. King, ça, on n'enlève pas son talent, mais il y en a d'autres qui avaient du talent de malade. Mais à un moment, il faut savoir bien s'entourer et construire. C'est une entreprise, quoi.
Et s'il n'y avait pas eu B.B. King, il y aurait eu Little Milton. Pour moi, il a eu autant de talent, ce garçon.
Et tellement, et parmi d'autres.
Et tu vois, les
relais en Europe et l'ouverture de l'Europe, Clapton a joué un rôle de malade parmi d'autres.
Ouais.
Et je veux dire, Black and Blue a joué un rôle de malade, etc., etc. Donc, au moment, si tu gueules, tu dis, ouais, c'est pas normal, je pense que tu passes à côté d'une partie de cette histoire et renseigne-toi bien avant et comment ça a marché et comment certains artistes afro-américains ont réussi à s'en sortir dans un contexte, je pense, beaucoup plus difficile, quoi.
My baby told me not so very long ago. She said, I don't love you, Daddy, and you got to let me go. That was too much for me. That's why I walk the back street and cry. You know it hurt me so bad. To hear my baby say goodbye. She said, another reason that made me want to leave. You ain't got enough of nothing to keep me halfway pleased. I tell y'all that
was too much for me. That's why I walk the back street and cry. Oh yeah.
Fabrice Bessois, il nous reste un petit peu de temps, un tout petit peu de temps pour parler aussi de ton actualité musicale en dehors du fait de faire tourner les Américains. Moi, je me souviens d'un super concert de Stagger Lee, c'était il y a 6-7 ans, ça n'existe plus, ça, le groupe Plaisir avec Arnaud.
Ouais, alors pour moi, ça n'existe plus, mais le groupe existe toujours.
Ouais, d'accord.
Moi, au moment, voilà, j'avais pas le temps et il fallait que je fasse des choix, et donc à un moment, j'ai laissé ma place et c'est Hugo Devier qui a repris le flambeau à la batterie. Le groupe, voilà, c'est sans prétention, les gars se retrouvent.
C'est un répertoire de reprises, puis c'est pour le plaisir surtout, quoi.
Ouais, ce plaisir, et ponctuellement, ils se font des concerts. Je pense peut-être qu'un jour, Arnaud aimerait bien faire un album pour le plaisir là aussi. Mais ouais, le répertoire est fun, donc c'était chouette de se retrouver et de pouvoir, juste pour le plaisir, se retrouver et faire de la bonne musique. Mais ouais, moi, jusqu'à l'année dernière, j'étais dans un des projets avec Lolan Brothers.
from the ice close to my heart, as they say. You live inside the pulse current, so far away. But I need more than the pictures of Betty's Day. I took a train and a plane, I'm traveling through the seasons. I leave the rain and pain, I had to deal with the distance. From cold and rain to sunny day, I'm gonna get it. Serpentine December, yeah, that I will remember. I say you're my bright sun.
Alors, Lolland Brothers, c'est aussi ce dont je voulais te parler. Tu n'es plus dans Lolland Brothers, alors ?
Non, tout à fait. J'ai posé ma démission mi-décembre l'année dernière.
D'accord.
Et en un moment, voilà, c'était pas évident. Et l'engagement dans un groupe, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. La période de Covid nous laissait du temps pour se dire pourquoi pas, on pourrait lancer ce nouveau projet. On en parlait avec Nico, on en parlait avec Matt Chinwell, on en parlait avec Hugo Devier. Et pendant les périodes de non-confinement, on a pu se retrouver et composer et créer ensemble tout un nouveau répertoire. Et cette période créative, ces sessions créatives, c'était vraiment très enrichissant. Dans un univers musical plus frais, plus ouvert à la musique un peu country soul americana, tu vois, et que je connaissais moins, et donc ça m'a énormément apporté. Et suite à ça, on a commencé à faire des concerts et l'année dernière, il y a eu quelques concerts, mais c'est pas évident à développer un tel projet parce que c'est la musique depuis la France qui est pas forcément aussi connue et ça prend plus de temps peut-être aussi. Et c'est vrai qu'en parallèle, à un moment, moi, je commençais à voir que l'activité de tourneur pouvait repartir. Et dans mon idéal, j'espérais pouvoir cumuler, faire un peu des deux, mais en termes de logistique, c'était pas évident, quoi.
Ouais, d'accord.
Donc à un moment, j'ai dû faire le choix et comme un accord, là aussi, on en a parlé avec les gars et j'ai dit, ils m'ont dit, on comprend bien. Mais là, ça paraît pas envisageable de faire les deux. Il faudra que je tranche. Donc, j'ai fait mon choix et je me suis relancé dans les tournées. Mmh. Donc, j'ai laissé ma place au mois de décembre dernier.
Alors, Fabrice, j'en arrive à la toute dernière question. L'actualité et les projets de Soulshot, ça continue. Il y a des dates qui sont calées. Il y a des tournées en ce moment. Pour 2023-2024, à quoi faut-il s'attendre sur les festivals, dans les clubs, un petit peu partout en Europe ?
Ouais. Là, je suis très, très, très heureux parce que j'ai passé une belle année, là, déjà. Enfin, elle n'est pas finie, mais déjà, jusqu'à cet été, il y a eu des belles choses. Mais vraiment, l'année prochaine, j'ai hâte parce que, dans l'ordre chronologique, j'ai le plaisir de pouvoir partir rejoindre à nouveau Mike Welch pour faire avec lui la Legendary Blues Cruise qui aura lieu fin janvier. Et donc, tu sais, c'est vraiment la croisière.
Ça, c'est dans les Caraïbes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ça part de Floride et ça va jusqu'au Mexique. Ouais. Et pendant une semaine, t'as Taj Mahal, Kemmo et une trentaine de groupes seront là, quoi, tu vois. Donc, en gros, après l'album, Mike a été programmé. Il a une très bonne presse et on est assez proches. Et j'ai dit à Mike, j'adorerais pouvoir participer à cette croisière. Énorme, il m'a dit, ça, c'est fin janvier. Et suite à ça, l'événement pour moi, c'est faire découvrir un jeune talent qui commence à faire parler de lui, qui va venir au mois de novembre, en octobre et novembre, pour la première fois en Europe, c'est un certain Sean McDonald. We'll be right back. John McDonald.
D'accord.
Je sais pas si t'as entendu parler de ce gars-là.
Non, pas encore.
Eh ben, j'ai hâte que tu le découvres. J'ai commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux. Là, il va venir en Espagne et en Hollande pour faire quelques concerts en octobre. Je vais aller en Hollande pour l'accompagner. Et c'est surtout, il va venir en novembre pour être dans la programmation du festival à Lucerne. Parce que le programmateur de Lucerne, j'ai appris qu'il était là-bas au fin fond de l'Arkansas et il a aperçu ce jeune talent que moi j'ai aperçu, j'ai découvert sur les réseaux sociaux pendant la période du Covid. Et pour te la faire courte, des gens comme Alabama Mike, Keen Anderson, Kirk Fletcher, John Thaddeus Willis, Marquis Knox le soutiennent énormément déjà.
Ouais, alors ça c'est une référence. John Thaddeus Willis, pour l'avoir vu il y a pas longtemps,
ouais.
Au printemps dernier, j'étais absolument bluffé par ce garçon, doublé d'une grande gentillesse en interview. Enfin voilà, c'est un garçon qui est né en 96, rends-toi compte.
Ouais.
La relève est là, c'est comme.
Ah non, mais il y a une sacrée relève qui arrive là.
Eh oui.
Si tu regardes sur YouTube, il y a un duo entre John Thaddeus Willis et Sean McDonald.
D'accord. Il me semble bien justement que dans cette interview, John Thaddeus Willis m'avait mentionné ce nom, Sean McDonald.
Ok, super.
Je réécouterai
Non, il y a un certain Eddie Stout de la scène Texas qui l'a signé pour son label.
De Dayton Records, c'est ça?
Exactement. Mm-hmm. Et là, il vient d'avoir lieu le festival à Austin Eastside. Et là, tu avais Sean McDonald, tu avais D.K. Harrell qui est...
J'allais t'en parler. Un garçon qui est né en 98, lui, et qui... il a déjà une gabarit de B.B. King et puis il a touché de guitare à la Little Milton que j'adore.
Et en fait, l'album qui vient de sortir, ils l'ont enregistré chez Keith Anderson la semaine après nous.
Ah d'accord.
Avec Mike, c'était juste la semaine suivante. Et t'avais t'as toute la crème de Grizzland qui est là et c'est vraiment quelqu'un qui va aller loin aussi, je pense. Et là ils sont retrouvés D.K.R.L. et Sean McDonald dans ce festival la semaine dernière, c'était à Austin. Il y a pas mal de photos, d'extraits vidéo. Et franchement, je crois là j'ai eu un coup de cœur. Je suis pas le seul. Pour te dire vite fait l'anecdote, Keith Anderson quand je l'ai côtoyé là-bas. On en a parlé de la nouvelle génération et à un moment, je savais pas encore. Je lui ai dit, t'as entendu parler d'un jeune Sean McDonald? Et il me dit, si j'en ai entendu parler. Tellement que j'ai entendu parler, tellement que je l'adore et tellement que j'ai envie de le soutenir. J'avais vu passer que Sean avait trois guitares de ses rêves. Il avait mis une photo avec les trois guitares de ses rêves. Et il avait dit, un jour, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir les essayer, tu vois.
Ouais.
Et Keith Anderson, qui lui, à son studio, il arrête pas d'acheter, de revendre du matos. Et il a contacté Sean McDonald et il lui a dit, écoute, j'adore ce que tu fais, j'ai envie de te soutenir. Tu les veux, ces trois guitares? Je les ai. Il lui a envoyé les trois guitares.
Ah ouais, carrément, les trois. Wow.
Tu vois, pour lui donner un coup de main, pour le soutenir. Non, et en fait, moi, pour te dire, en tant que tourneur, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai envoyé un mail, comme à chaque fois, un tir groupé avec, en disant, au mois de mars 2024, jeune talent qui arrive. J'ai mis une photo, un petit texte de présentation et un petit extrait vidéo que j'ai trouvé sur YouTube, tu vois.
Mmh.
En deux jours, j'avais 11 concerts de Calais.
Ah ouais, c'est énorme.
Ça m'est jamais arrivé. En fait, il fait vraiment réagir. Et je pense que là, les concerts qu'il va faire, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être vraiment quelque chose.
Eh ben, écoute, Fabrice, on va continuer à te suivre sur les réseaux et puis encore plus sur la route.
Super.
Tout cas, me concernant, ce sera de plus en plus sur la route, je peux te le dire.
Je compte sur toi.
On va se revoir. Et puis, merci pour toutes ces anecdotes croustillantes.
Avec grand plaisir.
Puis, merci pour ta passion et puis tout ce que tu donnes au blues, soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou là-bas.
Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment un grand plaisir de partager ça.
Grand plaisir, Fabrice.
Merci,
à bientôt.
Marc.
Merci.
À bientôt. Ciao.
Au revoir. Thank you. Merci à Fabrice Bessois pour cette interview fleuve, ici deuxième partie avec The Blues Brothers Band, Sweet Home Chicago, extrait de Blues Brothers and Friends Live from Chicago's House of Blues en 1997, Sam Taylor, You Got the Nerve en 1995, Lisa Ote, Gossip avec Fabrice à la batterie dans l'album Trio de 2005, Monster Mike Welch avec Fabrice Bessois à la batterie In Case You Care sur le tout nouvel album Nothing But Time chez Golf Course Records, Little Milton avec Walking the Back Streets and Crying en 72 chez Stax, Staggerly un live à Dynamo Café en 2016, Lowland Brothers Sunburns in December sur Wita en 2021, Sean Mac McDonald avec Kurt Fletcher live at the Underdog à Nashville en 2022, Sean Mac McDonald et Jan Tavius Willis en duo acoustique Cold Drink of Water Blues et puis Monster Mike Welch Afraid of My Own Tears toujours sur Nothing But Time. Salut, à la semaine prochaine. Bye bye.
What I want is two. Six and two is eight. Come on, baby, don't you make me live high.